Bonjour Aurélien Taché.
Bonjour.
Êtes-vous de ceux qui pensent que le président de l'Assemblée nationale peut rester à son poste malgré sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt ?
Oui, je pense que nous sommes dans le cadre d'une mise en examen, donc pas d'une condamnation, et d'une affaire qui en plus a déjà donné lieu à une décision, un non-lieu. Et donc, il y a maintenant une nouvelle juridiction qui s'est saisie suite à l'appel de l'association Anticor, donc il faut voir comment cela va évoluer. Mais rappelons quand même qu'il y a déjà eu cette décision de justice qui avait innocenté Richard Ferrand, que donc tout pourrait laisser penser que la deuxième décision pourrait aller dans le même sens.
Et à l'époque, il n'avait pas été mis en examen.
C'est vrai, mais cette règle de la démission après une mise en examen, si vous vous rappelez, elle avait été instaurée à un moment où le gouvernement pouvait encore donner des instructions individuelles dans le cadre de dossiers, et donc pour les ministres qui étaient mis en examen, pour qu'il n'y ait pas de soupçon de partialité, ils démissionnaient. Là, on est dans un cadre différent.
Alors vous avez vu tout de même que certains membres de l'opposition se sont empressés de ressortir les messages que Richard Ferrand avait publiés au moment de la mise en examen de François Fillon en 2017. Il s'en prenait à cette droite qui, je cite, voudrait que soit placé dans nos mairies et nos écoles le portrait d'un homme mis en examen qui a perdu toute autorité morale. Ça complique tout de même un peu son système de défense d'aujourd'hui, parce que l'autorité morale de François Fillon, aujourd'hui, c'est la sienne qui est en cause alors.
Bon, d'abord, on était dans le cadre d'une campagne pour l'élection présidentielle.
Donc on a le droit d'être plus dur.
Non, mais avec une affaire qui était quand même incroyable. On avait des révélations tous les deux jours. C'était d'abord l'emploi fictif de son épouse, ensuite les costumes, et puis encore d'autres affaires financières. Je ne dis pas que tout cela est anodin. Je sais combien nos concitoyens sont aujourd'hui aussi interrogatifs devant la manière dont le monde politique peut se moraliser ou non. On a pris des engagements forts qui vont dans cette direction. Richard Ferrand était notre président de groupe d'ailleurs à l'époque. On a pris une loi pour moraliser la vie publique. On ne peut plus embaucher ses époux. On contrôle nos frais de mandat. Moi, je me soumets à ces contrôles chaque semaine. On avance dans ce sens-là. Aujourd'hui, l'honneur de Richard Ferrand est remis en cause par cet appel. Il doit pouvoir se défendre.
L'autorité morale est abîmée. Est-ce qu'elle est abîmée ?
Écoutez, moi, je ne le crois pas. S'il est innocenté à la fin, on ne peut pas dire que son autorité morale est abîmée. C'est vraiment cette décision de justice qui finalement, cette décision finale de justice qui fera foi.
Le Premier ministre a présenté hier les grandes lignes de la réforme des retraites. C'est la grande réforme de la deuxième partie du quinquennat d'Emmanuel Macron. Un système de réforme de retraite universel par points. Pour vous qui incarnez l'aile gauche de La République En Marche, est-ce que cette idée, ce système vous paraît juste ?
Oui, j'y crois profondément. Moi, je pense qu'il faut avoir une ambition sociale forte et qu'Emmanuel Macron était porteur sur ces sujets d'une vision un peu nouvelle, c'est-à-dire que on avait jusqu'ici un modèle de protection sociale qui était en fonction de votre corps, de votre métier, et qui n'était pas le même pour tous, qui ne tenait pas forcément compte du parcours individuel que vous pouviez avoir, des changements de carrière de plus en plus nombreux, des périodes d'interruption, quand vous êtes une femme, évidemment, avec le congé maternité, donc pour ce qui est des retraites. Donc tout ça sera mieux pris en compte par le système de retraite à l'avenir, comme ce sera mieux pris en compte aussi par le système d'assurance chômage. Nous avons ouvert un droit à l'assurance chômage pour les travailleurs indépendants. C'est une vision de la protection sociale qui est différente, plus individualisée et donc plus universelle et que je crois juste.
Il y a des grèves très importantes aujourd'hui, de mobilisation contre ce projet de réforme des retraites. Ce que disent par exemple certains conducteurs de bus ou de métro quand on est entré à la RATP, on a signé un contrat avec des conditions qui étaient celles d'une retraite assez tôt, avec un calcul sur les 6 derniers mois de carrière. Tout ça va être mis en cause, on va perdre beaucoup d'argent. Il y a une espèce de rupture du contrat et de l'engagement de l'État, en quelque sorte.
D'abord, ça ne s'appliquera que pour les personnes qui sont nées à partir de 1963. Donc pour un certain nombre de personnes qui sont à la RATP aujourd'hui, ils verront leurs droits liquidés selon l'ancienne formule. Pour ceux qui auront cotisé selon la formule actuelle, évidemment, tous les droits, 100% des droits, seront préservés. Et ensuite, moi, ce que je veux dire, c'est, je comprends évidemment que ce ne soit pas évident pour des agents qui aujourd'hui bénéficient d'un régime, je comprends même leurs inquiétudes, je comprends même qu'ils soient en grève à ce stade, puisque, après tout, c'est aussi une manière de dire qu'ils sont inquiets, de défendre leurs droits. Je n'ai aucune difficulté avec ça, et je regrette même d'ailleurs profondément d'avoir entendu Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, indiquer qu'elle ne paierait pas la RATP si le service minimum n'était pas indiqué. Je reconnais là une forme de brutalité inhérente à la droite. Nous, c'est pas comme ça qu'on veut avancer. On veut essayer de construire cette réforme avec les Français, avec les partenaires sociaux. Donc, Je veux quand même leur dire que sur le fond, on a besoin aujourd'hui, pour sauver le système de retraite par répartition, d'avoir des règles qui soient les mêmes pour tous. Et ces droits qui vont être égalisés vont aussi permettre de faire augmenter les droits de personnes qui aujourd'hui ont des difficultés quand ils arrivent à la retraite.
Donc c'est un appel à la solidarité au fond.
Effectivement, et à l'égalité, et à l'équité. Il nous faut sauver ce système par répartition, sinon ce sera le chacun pour soi avec la capitalisation. Et pour ça, on a besoin d'avoir un système qui est le même pour tous.
Le projet de loi de bioéthique est en débat en ce moment à l'Assemblée nationale. Le gouvernement promet que l'ouverture de la PMA, la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, ne prélude pas l'autorisation de la GPA, la gestation pour autrui en France. Peut-on en être vraiment sûr?
Écoutez, ce projet de loi ne contient absolument aucune disposition sur la GPA, à tel point même que vous avez certainement entendu...
L'égalité entre hommes et femmes, des hommes seraient fondés à demander ce droit.
Alors, on est sur la GPA, on serait sur une nouvelle technique de bioéthique. La PMA est une technique qui, elle, est utilisée depuis plusieurs décennies dans notre pays. Il s'agissait simplement de l'ouvrir à toutes les femmes. Donc, on était sur une mesure d'égalité, pas une mesure de bioéthique à proprement parler. La GPA est une nouvelle technique. Donc, certainement que le débat aura lieu un jour dans la société. Et je vais vous dire, à titre extrêmement personnel, j'y suis plutôt favorable à ce que ce débat ait lieu. En revanche, Emmanuel Macron...
Est-ce que le débat ait lieu ou est-ce que la GPA soit autorisée?
Alors, c'est compliqué de se prononcer comme ça aussi rapidement, mais moi, je n'ai pas de problème de principe avec la GPA. J'ai un problème de principe avec la marchandisation du corps des femmes. On pourrait très bien imaginer des GPA à titre éthique, gratuits. On pourrait imaginer des choses de ce type-là. Mais ça nécessiterait un débat approfondi qui ne se tiendra pas sous ce quinquennat. Et on ouvrira simplement la PMA avec cette loi. Il y a un seul sujet, c'est pour les enfants nés de GPA à l'étranger, oui, qui sont aujourd'hui des fantômes juridiques en France, donc, et qu'il faut pouvoir reconnaître.
Reconnus, oui. Voilà. Vous avez confirmé hier une information du Figaro. Vous allez participer le 28 septembre prochain à Paris à la convention de la droite, organisée par des proches de l'ancienne députée Front National Marion Maréchal. Vous dites vouloir combattre leurs idées dans une confrontation directe. Comment réagit-on dans votre entourage politique?
Écoutez, c'est assez partagé. Non, il y a beaucoup de mes collègues et amis qui me disent que j'ai raison, que de toute façon, il ne sert à rien de nier le fait qu'ils sont maintenant le principal adversaire politique. Moi, si vous voulez, mon intuition est la suivante. Je constate que Laurent Wauquiez a invité Éric Zemmour à la dernière convention de LR. Je constate qu'au sein du mouvement LR, un courant se structure autour de gens qui voudraient parler avec Marion Maréchal. Je constate que Guillaume Larrivé défend la suppression du droit du sol. Je ne suis pas naïf. Je vois bien que c'est l'avenir de la droite, ce courant de pensée ultra-conservateur. Et donc, c'est avec eux qu'il faut pouvoir confronter des projets de société, puisque c'est effectivement... très probablement le principal camp qui va se structurer face au camp progressiste.
Un mot très rapidement sur le nouveau commissariat à la protection du mode de vie européen. Est-ce que cet intitulé vous pose un problème ?
Il me révolte même. Je trouve que c'est, encore une fois, si on peut comprendre que ce serait... l'immigration qui menacerait finalement le mode de vie des Européens. C'est ça que ça voudrait dire, puisque ce commissaire européen était notamment en charge de l'immigration. Donc ce nom doit changer.
Merci Aurélien Taché. Bonne journée.